autant de fois que vous le souhaitez. Si jamais nous avons des sujets exécutifs, donc nous refaisons un tour et dans ce cas-là, vous ne pouvez voter, vous ne pouvez plus voter qu'une seule fois. Voilà. Donc, je vous propose de vous laisser la parole. Quel sujet souhaiteriez-vous traiter ce soir? Est-ce que vous avez déjà quelques idées? Oui. Bien sûr. Oui, oui. On présente autant de sujets qu'on en a. Voilà. Oui.
Alors, est-ce que l'anthropologie est autorisée en philosophie?
C'est un sujet philosophique.
Est-ce que vous pouvez la proscrire?
Rien n'est jamais à proscrire en philosophie. Oui. Allons-y. Le en même temps, tout court?
Ah oui, c'est en même temps.
En même temps.
Parce qu'on se fait depuis 7 ans.
D'accord.
6 ans.
En même
c'est
temps.
C'est qu'on a précisé.
C'est notre. La simultanéité.
Pardon?
Oui.
Les sujets, c'est les dangers de l'individualisme et le deuxième impact profond de l'oligarchie sur la démocratie.
Voilà. Donc, les dangers de l'individualisme et que faire contre les dangers de l'oligarchie sur nos démocraties. D'accord ?
Pour les micros, il faut bien tenir le micro comme ça, on entend bien.
On n'entend rien du tout.
Et non, c'est pas évident, ça fait un peu de musculation en même temps, je suis bien. Voilà, ouais, c'est toute la différence.
Oui. Donc, nous avons d'autres propositions. D'accord.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vais reproposer un sujet qui n'a pas été... Il n'a pas obtenu suffisamment de voix, mais c'était chaud la dernière fois, l'avant-dernière, je crois. Y a-t-il un lien, on l'avait résumé comme ça, y a-t-il un lien entre souffrance et créativité? Je veux dire, faut-il avoir souffert pour être créatif? La souffrance engendre-t-elle la créativité?
Y a-t-il un lien entre souffrance et créativité? Voilà. Et ensuite, on pourra approfondir la question. Oui, tout à fait. Madame ?
Oui, bonjour.
Oui, pardon.
Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Bonjour.
Mon sujet de ce soir, en fait, ce que je voulais aborder, c'est où en est-on de nos libertés individuelles et collectives ?
D'accord.
Inquiétude, espérance.
Ok. Alors, où en est-on de nos libertés individuelles et collectives ? Deux points. Inquiétude. Et espérance ou espérance ? Inquiétude et espérance. Oui ?
Faut-il exprimer l'indicible ?
Faut-il exprimer l'indicible ? L'indicible.
Oui. Dans une société qui se crispe, comment vivre avec l'autre ?
D'accord. Dans une société qui se crispe, comment vivre avec l'autre ? Oui.
L'écoulement du temps est-il obligatoirement destructeur ? L'écoulement du temps est-il
nécessairement destructeur ? Le temps est-il nécessairement destructeur ?
Oui.
D'accord. Le temps est-il nécessairement destructeur ? Oui. D'autres sujets possibles ? Oui, monsieur.
Pour sortir un peu des sentiers battus, quelle est la philosophie qui s'approche plus de voir la vie et la mort comme une continuité et non pas comme une rupture ?
D'accord. Vie et mort, entre continuité et rupture, ça irait comme reformulation ?
Oui,
c'est
oui.
Ça. Hein
oui. Oui.
La vie, la mort, continuité ou rupture ? D'accord.
Alors, devons-nous nous fier absolument à nos émotions et nos sentiments en philosophie, en lien avec la philosophie ?
D'accord.
Donc, devons-nous mettre en lien nos émotions et nos sentiments que l'on a au quotidien, que l'on ressent au quotidien, avec, notre philosophie, avec, une, avec la philosophie qu'on, peut, qu'on, est, qu'on établit nos pensées. Quoi.
D'accord. Alors, si on disait nos émotions et nos sentiments, sont-ils nécessairement en opposition avec la philosophie? Ouais? Non? 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 Alors, ouais? Faut-il se méfier de nos émotions et de nos sentiments en philosophie?
Non, pas
ou pour philosopher?
Pour philosopher.
Voilà.
Faut-il enfin, pour philosopher, c'est mieux.
Voilà. Faut-il se méfier
pour établir une philosophie, doit-on se...
se méfier de nos émotions et de
écouter,
nos sentiments?
Écouter.
Ou écouter, d'accord.
Écouter nos sentiments et nos émotions.
D'accord, ok.
Aussi établir des mots, et puis des mots sur nos émotions, enfin, établir les mots sur les sentiments et les émotions afin d'établir une philosophie.
D'accord.
Doit-on?
Oui, donc être...
Pouvons-nous?
Oui,
est possible
d'écouter de voilà pour nos émotions et nos sentiments pour philosopher.
Enfin, d'entendre une philosophie.
Ah, on peut, ouais, d'accord. Pour philosopher, voilà. Faut-il écouter nos sentiments et nos émotions pour philosopher? Ça nous fait déjà un certain nombre de sujets, Marie-France. 8. D'accord. Ben, ce que je vous propose, c'est que vous nous les rappeliez, là, juste avant le vote, et puis ensuite, on pourra passer au vote, déjà pour voir s'ils sont correctement formulés.
Voilà. Donc, le premier que j'ai noté, c'est les dangers de l'oligarchie.
Oui.
Le second, y a-t-il un...
Oui. L'impact profond de l'oligarchie sur la démocratie.
Mmh. Ah.
Les dangers de l'oligarchie sur la démocratie.
Sur la démocratie.
L'impact profond de l'oligarchie sur la démocratie.
L'impact profond de l'oligarchie sur nos démocraties.
Ensuite, y a-t-il un lien entre souffrance et créativité?
Mmh.
Liberté individuelle et collective, où en est-on? Anxiété et espérance.
Oui, inquiétude, on avait dit, non? Oui, inquiétude et espérance. Inquiétude.
Faut-il exprimer l'indicible?
Mmh.
J'ai noté comment vivre avec l'autre, mais je pense qu'il doit manquer un bout dans le sujet.
Oui, c'était dans une société en crise.
Après, le temps est-il nécessairement
destructeur?
La vie, la mort, continuité ou rupture.
Mm-hmm.
Oui. Écouter nos sentiments et nos émotions pour aimer l'autre.
Pour philosopher. Philosopher. Il en manque deux. Oui.
Les dangers de l'individualisme.
De l'individualisme. Et en même temps. À autoriser ou à proscrire?
Voilà. On est à neuf sujets.
Voilà. Eh ben, on va reprendre le premier, puis on va voter. Donc, le premier, Marie-France,
alors,
c'est...
Le premier, c'est l'impact de l'oligarchie sur la démocratie.
Voilà. Donc, qui voudrait traiter le sujet portant sur l'impact de l'oligarchie sur nos démocraties? Je rappelle que vous pouvez voter autant de fois que vous le souhaitez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10.
Le deuxième, y a-t-il un lien entre souffrance et créativité ?
Y a-t-il un lien entre souffrance et créativité ?
Alors ensuite, liberté individuelle et collective, où en est-on ? Inquiétude et espérance.
Donc, liberté individuelle et collective. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Faut-il exprimer l'indicible ?
Faut-il exprimer l'indicible ? Ce qu'on ne peut pas dire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27.
Dans une société en crise, comment vivre avec l'autre ?
Donc, dans une société en crise, comment vivre avec l'autre ? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12.
Le temps est-il nécessairement destructeur ?
Le temps est-il nécessairement destructeur ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
La vie, la mort, continuité ou rupture ?
La vie, la mort, continuité ou rupture ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Faut-il écouter nos sentiments et nos émotions pour philosopher ?
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Et enfin, les dangers de l'individualisme.
Les dangers de l'individualisme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Je crois qu'il y a un gagnant qui caracole en tête. C'est une catégorie entre souffrance et créativité.
Alors, en même temps, en même temps, si l'indicible en laisse faire. Alors, en même temps, qui voudrait traiter en même temps ? En même temps, c'est le sujet, en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Et souffrance et créativité, y a-t-il un lien ? Alors, pour commencer, pour quelle raison un tel sujet, un tel intérêt ?
Pardon, bonsoir. Alors, j'ai le trac, Non. Je suis toujours... toujours admiratif. Là, c'est bon, là, comme ça, là. Voilà. Plus comme ça.
Voilà.
Je suis toujours admiratif. C'est pas l'adjectif que j'aurais voulu choisir, mais par rapport à des artistes de tout genre, de tous horizons. Que ça soit des musiciens de toute époque d'ailleurs. Bah, en parlant de musiciens, ça fait penser aux romantiques. Les romantiques étaient souvent pas tristes, mais enfin torturés, songeurs, voilà. Enfin, oui, torturés, c'est beau. Hein. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Enfin, c'est mon point de vue, hein. C'est qu'un point de vue. Après, il y a des Baudelaire, par exemple, aussi. Alors là, on est plus dans les musiciens, bien évidemment. Il a écrit des choses très belles. Et c'était. Du coup, je m'interroge, est-ce que pour en arriver là, il faut être évidemment hors du commun des mortels, il faut avoir un don, probablement, enfin certainement, mais au-delà du don, je pense qu'il y a le parcours de vie, on va dire. Voilà. Mmh. Le parcours de vie un peu tortueux. Enfin, il y a même des philosophes aussi qui ont fait des choses assez extraordinaires. Alors il y en a un, donc, j'étais en train de relire un petit truc, et c'est un philosophe du langage, Ludwig
Wittgenstein.
Voilà, merci de m'avoir aidé à prononcer le mot infernal. Mais quand on regarde, quand on voit sa vie, il avait un parcours quand même assez particulier, lui aussi.
Oui, il y a eu des déchirements,
voilà.
Oui.
Voilà, alors après, on est d'accord ou pas avec ce qu'il dit par rapport au langage, le lien entre la pensée et le langage. Il voyait le langage comme quelque chose de logique. Mais c'est un peu raccourci, parce que si on ne peut pas utiliser... d'ailleurs, les poètes, ils ne seraient pas d'accord avec ça. Hein. Voilà, donc, est-ce qu'il y a... Alors, souffrance, je ne sais pas, mais souffrance, ça ne veut pas dire souffrance physique, mais... oui, torturé, j'aime bien le mot. Un esprit, l'esprit, hein.
Oui.
Enfin, le corps, heureusement. Ah, quoi que...
Alors, la question serait aussi, est-ce qu'il peut y avoir créativité sans ce rapport à la souffrance?
Ah, bien sûr, on peut le retourner dans l'autre sens.
Ah, ça serait ça, oui.
Et du coup, ceux qui ont créé des choses qui sortent du lot, on va dire, est-ce que la souffrance a joué un rôle là-dedans?
Ouais.
C'est juste ça.
Voilà, c'est vrai que, juste peut-être pour ouvrir sur cette notion de romantisme, il y a tout le rapport à la mélancolie. Et donc, au niveau de la créativité, ce qui est intéressant, c'est le fait d'aller... cultiver sa mélancolie. C'est-à-dire, pour que la souffrance devienne créative, il n'est peut-être pas suffisant de simplement souffrir, mais encore, savoir la cultiver, savoir être à son écoute, et savoir lui donner une forme. Si on prend Baudelaire, le spleen, enfin, les poèmes sur le spleen, c'est extraordinaire, mais voilà, ça... La souffrance devient poésie et elle devient du coup aussi partageable. Il y a ça aussi, hein, dans le rapport entre souffrance et créativité. Il y a une part du coup de mystère.
Je trouve que la souffrance exacerbe la créativité. Mais est-ce que nécessairement il faut souffrir pour créer? Parce que la création vient du fond de nous-mêmes. Donc il n'y a pas obligatoirement besoin de souffrir pour, en nous-mêmes, trouver cette créativité. Donc voilà, c'était un petit peu ce que ma pensée. C'est qu'en fait, c'est vrai que quand on est dans une situation où on souffre, on est plus à même de trouver au fond de nous-mêmes cette créativité, parce que cette souffrance nous amène dans un état où on est obligé de nous dépasser. Et quelque part, on le remarque dans tous les personnes qui créent, les artistes, ce sont souvent des personnes qui sont à fleur de peau, donc quelque part en souffrance, mais cette souffrance, elle est due à ce qu'ils sont très... leur sensibilité extrême, souvent.
Une hypersensibilité.
Oui, c'est ça. Qui crée leur souffrance. Mais après, je trouve que obligatoirement souffrir pour créer, je pense qu'il n'est pas une obligation. Mmh. On peut trouver au fond de nous-mêmes, dans le bonheur extrême, dans un bonheur extrême, à la limite, on peut trouver autant de sources de création que dans la souffrance extrême. Mmh. Bien que la souffrance est un moteur plus fort pour créer. Mmh.
Alors bon, je vais essayer de développer un peu sur la souffrance. Alors bon, déjà dans la salle, nous on est tous des êtres humains, donc des êtres sensibles, des êtres sensibles dont nous avons nous tous chacun des émotions, des sentiments. Nous pouvons ressentir dès la naissance, dès le premier cri, on va dire, dès qu'on sort de l'enfant de la mère, déjà ressentir quelque chose. Donc ça c'est une partie, voilà. Et donc que cette souffrance peut perdurer, on va dire, tout le long de sa vie, alors à différentes échelles pour les uns et pour les autres. Alors, bon, alors la souffrance, on va dire, de mon côté personnel, on va dire, la principale souffrance que j'ai, et bon, ça fait des années que j'ai, c'est, bon, c'est personnel, mais c'est dû aux injustices que j'ai pu ressentir de mon côté et aussi pour les autres. Donc ça, c'est une souffrance qui est perpétuelle. Voilà. Et aussi, voilà, donc, des injustices essentiellement, voilà. Et donc, pour lier justement, et aussi les oppressions aussi. Oppressions de toutes sortes, hein, que ce soit oppression plus haut niveau ou même à la base aussi, hein, que ce soit nos collègues ou quoi que ce soit, enfin, à tous les niveaux. De toute façon, il n'y a pas d'échelle vraiment de grandeur, on va dire. On peut se faire oppresser par n'importe qui. Ça, c'est une chose. Donc, on va dire que la souffrance, c'est une chose qu'on peut vivre au quotidien. Maintenant, pour ce qui est de créer, bah, déjà, on crée quelque chose, même par la parole. C'est-à-dire que là, chacun, on va utiliser la parole, par les mots qu'on va utiliser, on va transmettre des émotions. Un mot a un impact. Chaque mot a des impacts sur chacun, donc on crée quelque chose, on crée des émotions par la parole. À titre personnel, encore une fois, pour moi, la parole, au-delà de tous les arts, c'est le moyen le plus utile afin de subvenir à éteindre la souffrance, on va dire. Par l'expression des émotions et des sentiments par la parole. Ceci dit, je ne minimise pas les différents arts, parce qu'ils ont été, donc il y a eu des arts qui ont été notés, la peinture, la sculpture, la musique, mais selon ce que ça c'est mes propres convictions, c'est que c'est loin d'être suffisant. Mmh. Loin d'être suffisant. Le sport, les sports et les arts, c'est loin d'être suffisant.
Oui. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que si par création on entend le fait de pouvoir exprimer, déjà, la souffrance, en fait, elle vient de deux côtés. C'est-à-dire, ça peut être une souffrance personnelle, intime, comme on l'a exprimé à l'aide de la mélancolie, mais ce n'est pas nécessairement souffrir soi-même. C'est aussi utiliser, par exemple, la parole, utiliser l'art pour dénoncer la souffrance qui entoure. Alors, du coup, ça me faisait penser à cette fameuse phrase, quand on parlait du bonheur, il dit souvent, quoi, on dit « les gens heureux n'ont pas d'histoire ». Donc, des fois, du bonheur... qu'est-ce qu'on a à raconter ? Est-ce que toutes les grandes œuvres, d'une certaine manière, ne sont pas centrées autour de cette souffrance ?
Ceci dit, on peut souffrir profondément et être heureux à la fois. Mm-hmm. J'en suis intimement convaincu, je le sais. Mm-hmm. Donc on peut souffrir vraiment profondément.
Et en même temps.
Et en même temps, être heureux à la fois. Voilà. Il n'y a pas de compromis là-dessus, c'est sûr.
Mm-hmm. Oui.
Je passe avant ? Oui, ok, merci. C'est juste pour rappeler, parce que Nikita Pal, le livre est ressorti. Mm. Ils en ont parlé à la radio, bien entendu. Et elle a bien dit, 50 ans après qu'elle a eu un ACS avec son père, qu'elle n'en a parlé que après 50 ans, parce qu'elle ne voulait absolument pas qu'on lise ses œuvres avec ce qu'elle avait subi, surtout qu'à l'époque, ça n'a jamais. Enfin, son entourage, les psychologues, n'ont jamais cru sa parole. Et on voit quand même, je ne sais pas si ça a un lien, mais pour moi, ça m'a un peu critiqué, avec ces grosses femmes très robustes, on se dit, bon, bah, c'était pour par réaction, quoi. Je veux dire, quand j'ai appris ça, je me suis dit, bah oui, elle a subi un inceste. Oui, ces grosses femmes obèses, qui sont robustes, qui sont fortes, ça me paraissait, du coup, forcément, l'image de son inceste qu'elle avait besoin d'exprimer en disant, ben, je suis forte, je résiste. Mm-hmm. Enfin, ça me paraissait évident.
Oui, c'est-à-dire, est-ce que son travail d'artiste aurait été le même sans l'histoire qui a été la sienne, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, sur la notion de création, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire, dans la création, il y a à la fois expression, puis il y a aussi à la fois le fait d'amener quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc quelque chose qui n'existait pas au préalable. L'artiste a ce pouvoir de nous amener, ou il formule, ou il sculpte, enfin, quelque chose qui tout d'un coup va résonner en nous. Et donc, est-ce que la souffrance, voilà, est ce qui vient légèrement nous dévier de la norme, du quotidien, de la normalité? Et pour pouvoir justement être saisie dans ce qu'elle est, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'invention, de création, pour pouvoir justement, effectivement, se formuler? Oui.
Il me semble que si la création est l'expression d'émotions, le créateur a nécessairement une sensibilité aux émotions qu'il entretient même, et qui fait que il reste presque enfermé dans ses émotions pour arriver à les faire, à les exprimer, à les faire ressortir dans sa création. Il y a ce moment. L'autre moment, c'est le moment de la création qui en lui-même peut être une souffrance ou en tout cas un enfermement, parce qu'il faut arriver à la création finale. Et c'est tout un processus, tout un vécu personnel face à l'intention et la réalisation de cette intention. Mmh. Autre moment qui peut être effectivement source d'émotion et peut-être de souffrance, c'est ma création est-elle recevable? Est-elle reçue par l'autre? Est-elle source d'émotion pour l'autre? Et à ce moment-là, le retour peut effectivement être difficile. Et en tout cas, se pose le problème de la reconnaissance.
C'est ça, le problème de la reconnaissance, oui.
Or, bon nombre d'artistes n'ont jamais été reconnus. Mm-hmm.
Bon. Les artistes maudits.
J'ajoute un autre aspect, ouais, qui ressort énormément dans tout ce qu'on publie ou on montre actuellement. C'est à quel point les créatrices femmes ont été ignorées, bousculées et tuées dans leur création. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas été une source de souffrance?
L'invisibilité. Ah, ouais.
Alors, du coup, il se trouve que je suis en formation en art-thérapie. Je me dis que ça peut peut-être donner quelques pistes de réflexion. Alors, l'art-thérapie, déjà, je vais faire une petite définition, mais disons que par rapport à une psychothérapie verbale classique, comme on imagine quand on va voir le psy, en art-thérapie, au lieu d'utiliser le langage verbal, on utilise la médiation et en l'occurrence le langage artistique. Ça peut être toutes les formes d'art, qui va permettre pour des personnes pour qui le langage verbal est difficile, alors on peut imaginer les enfants, mais toutes les personnes qui ont, par exemple, du mal à exprimer leurs émotions et tout ça, peuvent utiliser, alors moi c'est plus les arts plastiques mon domaine, mais la peinture d'une certaine manière, travailler les coulures, ou sinon le dessin, travailler la perspective, qui vont être des moyens d'exprimer, alors ce qu'on pourrait exprimer en psychothérapie classique, de problématiques de souffrance par l'intermédiaire de cet autre langage, sachant que voilà, les images sont polysémiques, il y a plein de choses qui peuvent passer par rapport à ça, le symbolique et tout ça. Donc, en effet, cette forme de créativité-là peut aider. Ceci dit, si on parle dans la psychiatrie, par exemple, je vais donner l'exemple d'Antonin Artaud, donc, qui a écrit de la poésie, du théâtre, des livres, qui lui était schizophrène. Les moments où il était vraiment très très malade, donc il a passé longtemps, enfin, pas mal de temps en hôpital psychiatrique, donc les moments de grosse crise, il était incapable de créer. Crise schizophrène, c'est vraiment un mécanisme de défense pour ne pas s'effondrer, et du coup, voilà, c'était une souffrance extrême, et dans ces moments de souffrance extrême, c'était pas possible, c'était un après-coup, quand il était déjà plus stabilisé, et ça se vérifie en hôpital psychiatrique, en crise, c'est pas possible, quoi. Dernier point un peu théorique, je m'arrête après. La créativité, donc il y a plein de définitions différentes, mais il y en a une qui est intéressante du côté de Donald Winnicott, qui est un psychanalyste. Et lui, il considère que la créativité, c'est quelque chose de fondamental chez l'être humain, qu'il l'associe beaucoup au jeu des enfants et tout ça, et ce qui permet, en fait, le jeu, c'est un petit peu aussi le côté, enfin, du jeu dans des rouages, en fait. Ça permet de transformer des mécanismes, de se réadapter au monde. Et pour lui, la créativité, c'est ce qui vaut la peine d'être vécu. Et du coup, tous les êtres humains auraient ça de base et devraient le cultiver. Donc après, voilà. Qu'est-ce qu'on entend par créativité par rapport à la souffrance?
Ok. Ce qui est intéressant quand même sur ce lien entre créativité et souffrance, avec une souffrance qui rend la créativité impossible, c'est que la souffrance, lorsqu'on est dans la souffrance, dans la douleur pure, elle est très certainement justement ce qui va dépersonnaliser l'individu. Et donc, voire entraîner carrément une perte d'identité. Enfin, voilà. Et donc, effectivement, la création dans cet aspect-là, c'est ce qui permet à un individu de faire que la souffrance qu'il ressent devienne sa souffrance. Et donc, qu'il puisse se la réapproprier. Par exemple, chez Antonin Artaud, c'est ce qui va faire effectivement qu'il se reconstitue, qu'il se rebâtit, il se réunifie en fait, hein, par cette réappropriation de soi en faisant de sa souffrance, voilà, enfin, en faisant de la souffrance sa souffrance. Et c'est ça qui est peut-être intéressant dans le processus créatif. C'est-à-dire, est-ce que la souffrance n'est pas justement ce qui nous. Ce qui entraîne une véritable perte de soi au moment où on la subit. Oui.
Bonsoir. Bon, ça commençait mal déjà, puisque quand il a chassé Ève et Adam du paradis terrestre, Dieu a dit à Ève tu enfanteras dans la douleur. Donc forcément, on savait que ça allait être compliqué de créer sans se faire du mal. Et puis en plus, il a dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, donc il va en chier aussi. Hein. Mais en fait, bon, ça c'est un substrat, on va dire, judéo-chrétien chez nous. Et puis, on peut dire aussi que quelqu'un qui est créatif, c'est forcément quelqu'un qui est insatisfait de l'existant. Il a le besoin d'inventer autre chose, sinon il n'a pas besoin de créer. Donc, est-ce que cette insatisfaction est une douleur, peut-être plus ou moins violente, mais il y a forcément quelque chose qui ne va pas, puisqu'on a envie de créer quelque chose qui n'existe pas. J'ai l'impression dans la discussion, mais je ne sais pas si c'était la volonté de la personne qui a posé la question, qu'on est surtout sur la création artistique. Mais la création, elle n'est pas seulement artistique. C'est-à-dire qu'un artisan qui cherche une solution pour monter une fenêtre ou je ne sais pas quoi, il est créatif. Un scientifique, il est créatif. Un cuisinier, il est créatif. Un publicitaire, il est créatif. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui... Enfin, à qui on... J'ai dit un scientifique. J'ai ma camarade scientifique à gauche qui surveille. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'associe pas forcément le spleen de Baudelaire à ces gens-là. Mais est-ce qu'ils sont simplement insatisfaits Ou est-ce que simplement c'est leur narcissisme qui les pousse à dire « Tiens, je vais faire quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait, ce sera mon truc à moi ». Donc il y a ça aussi. Alors est-ce que, on parlait de reconnaissance, est-ce que ça c'est aussi une souffrance ? Est-ce que le fait de vouloir se mettre en avant, ça témoigne d'une souffrance interne ? Peut-être un petit peu aussi. Et puis si on se restreint à l'art, évidemment l'art c'est l'émotion, donc forcément la sensibilité. Donc quand on est sensible, on se prend tout en pleine gueule en permanence. Donc on souffre en permanence forcément. Et une chose aussi qui m'interpelle, c'est qu'il existe des méthodes de créativité. Moi, j'ai connu une dame, une Québécoise, qui enseignait la créativité dans les écoles d'art. Et ses cours étaient super appréciés. Je n'ai jamais eu la chance de pouvoir y assister. Mais c'est-à-dire qu'elle apprenait aux étudiants à augmenter leur créativité. Mmh. Voilà. Et puis, je ne sais pas s'il y a des profs d'art plastique dans la salle, mais ils savent... Oui, forcément. Mais ils savent tous que donner des contraintes, ça augmente la créativité. Donc, si je vous dis, vous allez faire prendre une feuille de tel format que vous allez utiliser uniquement un pinceau et la couleur jaune, et que vous allez faire un dessin à base de carrés, et vous êtes beaucoup plus créatif que si on vous donne la feuille sans aucune consigne. C'est assez intéressant. Alors, est-ce que le fait de tordre le bras un peu à celui à qui on demande de créer, ça stimule sa créativité ? On lui fait un peu de mal pour qu'il puisse être plus créatif. Voilà les réflexions qui me viennent.
Alors, c'est intéressant parce que, en fait, il y a deux visions de la créativité. Il y a effectivement la créativité qui va aller se fonder dans la souffrance. Alors, oui, la créativité artistique, puisqu'on est parti du romantisme, donc dans la souffrance du sujet. Et puis, il y a aussi la créativité, deuxième plan, voilà, qui s'inscrit, elle, dans l'usage de sa raison et dans le fait de percevoir très clairement le projet qu'on va créer avec une totale maîtrise, effectivement, d'un projet rationnel. À partir de ce moment-là, la souffrance n'est pas à l'origine de la création. Et ça, c'est très flagrant, par exemple, chez quelqu'un comme Platon. Par contre, ce que nous dit Platon, et là, on y revient... C'est qu'ensuite, pour créer, là, va y avoir de la souffrance. Et c'est la souffrance du travail, c'est la souffrance de l'effort. Mais on ne parle plus du tout de la même souffrance. Enfin, voilà, entre créer et puis produire, parce que je crois que chez Platon, on parle vraiment d'une production de l'œuvre, avec un calcul magnifique, enfin, on maîtrise le nombre d'or, tout ce que l'on veut, exercice pur de la raison, voilà. On n'est pas dans une souffrance psychologique, on n'est pas dans une souffrance existentielle, on n'est pas dans la souffrance que l'on peut trouver dans le plus intime du sujet, qui, d'après moi, n'aurait pas eu grand sens, par exemple, pour un grec. C'est pas ça qui fait créer, effectivement. Voilà.
Oui, moi, j'arrive un peu après, mais je voulais poser, effectivement, la question du rapport à l'art. Est-ce que c'est systématique ? Parce que vous dites que créer, effectivement, de manière artistique, c'est-à-dire qu'il faut que l'œuvre soit reconnue. Je pense à Van Gogh, par exemple, qui n'a jamais su que personne ne le reconnaîtrait jamais, et qui a créé des choses, bon, artistiquement parlant, et pour les marchands d'art aussi, une valeur extraordinaire. Bon, lui, c'était sans doute l'expression d'une souffrance psychique, psychologique. Après, au niveau de produire, comme vous dites, produire, effectivement, c'est de la créativité aussi. Est-ce que produire, ça peut être aussi se transformer en art. Je pense à l'architecture, par exemple, avec des calculs, le nombre d'or, il faut que le pont tienne debout et tout. Oui. Mais il reste, le Parthénon, des Grecs, malgré tout, il reste des œuvres d'art. Donc, est-ce que malgré tout, on n'a pas quand même tendance à assimiler créativité, quand on en parle, à art, sous toutes ses formes ? Sinon, effectivement, comme le disait monsieur, on est tous créatifs, là, on est en train de parler de manière plus ou moins pertinente. On crée de la parole, du discours, etc. Bon, il n'en restera pas grand-chose sur le long terme. Donc, je pense que, pour moi, la créativité, c'est à partir du moment où il y a une reconnaissance d'un certain nombre de personnes pour s'émerveiller de quelque chose ou trouver un vaccin, même que c'est vraiment, voilà, pertinent, bluffant, etc. Je pense que la créativité, pour moi, c'est à partir de ce moment-là.
En fait, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de produits à partir d'une créativité. Voilà, qu'il y ait une œuvre, hein, que l'on puisse contempler. Oui.
Ah oui. Merci.
Alors, moi, mes références ne sont ni, enfin, ne sont pas occidentales, hein, c'est plutôt extrême oriental et Asie centrale. Donc, je suis aussi un géologue, donc scientifique, puisque littéraire ou philosophe. Donc, si je vous parle un peu terre à terre, je vous demanderai de bien vouloir m'en excuser. Pour revenir au terme de souffrance, je me dis, mais finalement, est-ce que la souffrance a la même définition suivant les époques historiques, suivant les cultures et suivant aussi les personnes et les individus? Je vous donnerai peut-être quelques exemples que j'ai vécu personnellement, mais avant de parler de ça, je parlerai, enfin, sous votre contrôle, il y a deux phrases qui me viennent à l'esprit, l'une de Confucius, qui dit « Comment modérer ses souffrances pour intégrer le monde ?» Et que Bouddha, quasiment contemporain, dit « Comment maîtriser ses souffrances pour échapper au monde matériel, bien sûr. » Et qu'un siècle après, il y a un saint Sophie de Persane, en Asie centrale, qui était un mystique, et qui... lors de l'un de ses élans mystiques, il a écrit beaucoup de choses, mais aussi quelque chose qui me vient à l'esprit par rapport à la souffrance. Comment aurais-je su que la souffrance est mère de la joie et que derrière chaque déception, il se cache 1000 trésors et que la souffrance peut être aussi source de trésors, source de création, bien sûr. Et pour terminer, j'ai un exemple personnel. Pendant 4 ans, il y a une vingtaine d'années, ma mère était souffrante. Je m'occupais d'elle, mais je n'étais pas le seul. Et j'avais remarqué que pendant cette période, je souffrais avec sa souffrance, bien sûr, parce que c'était juste dans les tripes. Mais que ça m'est arrivé aussi d'écrire quelques poèmes en persan, parce que le persan, c'est par définition une langue poétique avant d'être autre chose, et que ces poèmes que j'ai écrits, que je relis aujourd'hui, je me dis, mais je ne serai jamais capable aujourd'hui, je le fais, alors que j'étais dans la souffrance. Voilà un exemple vécu personnellement, mais à mon niveau, bien sûr. Je n'ai pas la prétention d'être poète, ni un créatif, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Voilà, je vous remercie. Attention.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même l'idée d'une souffrance créatrice, d'une souffrance personnelle, d'une souffrance vécue, hein, celle de la souffrance de votre mère que vous avez partagée. Et en même temps, si on suit Confucius et Bouddha, l'idée, c'est quand même de dire que pour créer et voir large, accéder à une pure vision du monde qui ne soit pas inscrite dans un jeu des apparences, là, justement, il faut apprendre à dépasser la souffrance, voire bon, la maîtriser, mais très certainement la maîtriser pour la dépasser. Hein. Et que parvenir à ce dépassement fait de la souffrance une source de connaissance, dans le sens où saisir ce que la souffrance peut avoir effectivement de connivence avec la déception, avec l'insatisfaction, avec j'ai envie de dire des sentiments qui peuvent aussi être liés à l'envie, à la jalousie, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent venir gangréner un individu. Parvenir à saisir en fait la manière par laquelle ça fonctionne et peut-être du coup aussi leur vacuité, voilà. Parvenir par là même à les dépasser, donc à dépasser notre finitude et notre singularité pour saisir la compréhension du sens de l'existence, ça c'est source de joie. C'est fondamentalement source de joie. Et en ce sens, voilà, il me semble qu'un de nos plus grands philosophes, Spinoza par exemple, est à partie lié avec cette vision du monde qu'on peut trouver chez Bouddha ou Confucius, quoi. Voilà, ouais.
Moi, je pense que la créativité, en fait, elle se développe. Quoi. On peut pas créer à partir de rien. L'artiste ou le créateur, il va forcément déjà développer son, enfin, avec des années d'entraînement, il va développer la maîtrise de son art, et ça il le fait par rapport à ce qui est socialement accepté, quoi. Par exemple, un musicien va apprendre les gammes déjà, et les gammes il va pas les inventer, il va voir ce qui est socialement accepté dans la société, ce qui sonne bien dans notre société, quoi. Et une fois qu'il aura cette maîtrise, là il va pouvoir commencer à créer, à essayer des choses. Et voilà, enfin, il va, voilà, là c'est là d'où vient la création. Alors pour le côté souffrance, je pense aussi l'artiste, le créateur, il est pas isolé, il essaie toujours de ce qu'il fait, c'est toujours une image du monde dans lequel il vit, quoi. Alors voilà, moi je pense. Je dis mon avis.
D'accord.
Bonjour. D'après moi, il n'y a aucun lien entre la créativité et la souffrance. Tout d'abord, je vous posais une question. D'après vous, qui est le plus créatif en général? Qui est le plus créatif? Ma réponse, c'est, ce sont des enfants. Ce sont des petits enfants qui peut-être jamais apprennent la langue, peut-être ils n'ont jamais bien saisi la langue française ou quoi d'autre. Peut-être ils ne sont jamais éduqués, mais avec un petit style, avec quelques couleurs, ils peuvent créer des choses, on dit, créatives. On peut penser, mon enfant, il est tellement créatif parce qu'il a utilisé telle couleur pour créer une peinture vraiment géniale, vraiment créative. Et parfois, la simplicité, c'est la créativité. Et la créativité, c'est une valeur qui est ajoutée après la création. C'est pas forcément quand il crée, il existe la créativité. C'est une valeur qui est ajoutée après. Et pourquoi cette question, la lien entre souffrance et créativité, d'après moi, parce qu'on est jalouse. Si quelqu'un, on est tous normal, on est des gens normal, mais si quelqu'un qui a créé des choses géniales, magnifiques, et on va être jaloux, pourquoi je suis normal? Pourquoi je ne peux pas être créative comme lui? Alors, il y a beaucoup de recherches par rapport au parcours d'acteur, parcours de vie d'acteur, peintre, et pour savoir pourquoi il peut avoir tellement de grande créativité. Parce que nous, on est normal, on est des gens si normal, et pourquoi je ne peux pas si créative, avoir beaucoup de créativité. Et la souffrance, peut-être, c'est pas forcément la souffrance, c'est peut-être c'est juste une situation de vie, comme Van Gogh ou quoi d'autre. Les créateurs, ce sont leur vie, leur façon de vivre, c'est pas forcément, chaque moment, sont beaucoup de souffrance. C'est nous, quand on posait cette question, c'est pour savoir pourquoi il y a une créativité chez lui. Alors, pour moi, il n'y a pas forcément le lien entre souffrance et la créativité. Oui, c'est tout, merci.
Oui.
Je reprends la parole. Il me semble important d'introduire dans le débat la notion d'imagination. Parce que dans la créativité, alors soit parce que la personne, disons, vit des insatisfactions, pour ne pas parler de souffrance, vit des insatisfactions par rapport au réel. Et elle va essayer de traduire ces insatisfactions dans l'imaginaire. Soit c'est directement une production de l'imaginaire et qui est à traduire dans le réel. Et ça peut être source de tension, de souffrance aussi. Et parce que, bon, finalement, il faut que cet imaginaire devienne œuvre Et je, quand je dis œuvre, je pense aussi bien à une théorie scientifique. Hein. Un scientifique fait preuve d'imaginaire à partir du moment où il crée une nouvelle théorie. C'est une création pleine et entière. Hein. Je crois qu'il ne faut pas, comme un cuisinier qui crée une recette, je crois qu'il ne faut pas, il faut voir aussi que c'est des choses concrètes aussi, pas seulement les œuvres d'art. Et donc, ce que j'imagine, ce que moi je porte en moi, à travers mon imagination, n'est pas encore dans le réel. Et je dois le porter dans le réel. Et ça, ça peut être source de tension, de souffrance.
Et je trouve
en
que
tout
c'est
cas, très... En tout cas, l'imagination a une place essentielle. Parce que c'est soit, enfin, c'est ce que j'ai dit, quoi, soit le réel ne me satisfait pas et je me réfugie dans l'imagination et j'essaie de traduire ça dans le réel, soit directement, il faut que j'ai la force de traduire mon imaginaire dans le réel. Et là, il y a vraiment une tension importante.
Très, très importante. Et c'est vrai que c'est ce que nous montrent les enfants, hein, cette force de l'imagination, la force de l'imagination créatrice.
Oui.
Oui, c'est très simple. Si j'ai bien compris ce qui a été dit jusqu'à présent, mais peut-être que je n'ai pas bien compris, il me semble que si on ne veut pas souffrir et si on veut être heureux, c'est très simple, il ne faut pas créer. Et on peut même le dire pour la femme, parce qu'autrefois la femme, elle est obligée de faire les enfants quand même, et maintenant elle n'est même plus obligée. Donc le bonheur, il est au bout de la non-création.
Oui. Alors en fait, moi je voulais rebondir sur l'expérience de monsieur tout à l'heure qui parlait en face de moi. En fait, je peux pas m'empêcher de voir la dimension énergétique dans tout ça, dans le sens où j'ai l'impression finalement que donc le processus créatif, il est là pour gérer des émotions trop intenses qui ne peuvent pas être justement gérées par le corps. Donc c'est une sorte de libération, libération émotionnelle qui empêcherait le corps de fonctionner normalement. Donc il y a une énergie trop intense qui a besoin d'être exprimée pour que le corps fonctionne. Et c'est pour ça, dans l'expérience de monsieur qui disait qu'il avait eu cet instant de créativité quand il était en souffrance avec sa maman, et bien, voilà ce qui m'est venu, c'est... voilà. Grosse charge émotionnelle que le corps ne pourra pas forcément gérer, qui va le bloquer, et donc extériorisation en processus créatif. Et je pense que ce qui peut justifier ou faire comprendre peut-être que on soit beaucoup plus interpellé par des artistes qui sont un peu en souffrance, c'est peut-être justement toujours cette intensité de ce qu'il y avait à sortir, quoi, qui va plus interpeller. Donc voilà, c'était vraiment pour amener cette dimension énergétique dans tout ça, vraiment physique en fait.
Alors si on se replace un peu peut-être sur le plan du psychisme, Freud va nommer ça la sublimation en fait. Ce trop-plein effectivement de tension qu'on peut avoir à la fois dans le corps et au niveau du mental, à un moment donné effectivement il faut l'extérioriser. Et la meilleure forme d'extériorisation, ben, c'est la création, quoi. La création de quelque chose qui donne forme à ces tensions internes que l'on porte, effectivement, et qui permet de se libérer. Hein. C'est ça, hein, se libérer de ce qui peut venir nous coincer, nous empêcher de respirer, nous empêcher de comprendre, nous empêcher de connaître. Oui. Oui.
Alors, vous l'avez beaucoup mieux dit que moi, parce que moi, quand madame a parlé, j'ai pensé au lâcher-prise. Et au fond, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre la création et la notion d'excès. C'est-à-dire d'être en excès de souffrance, d'être en excès de joie, d'être en excès d'urgence. Alors, je prends quelques exemples qui m'appartiennent. J'étais basketteuse, donc en situation d'urgence, vous l'avez peut-être noté dans d'autres sports, il ne reste pas beaucoup de temps,
ou alors, curieusement, je me préparais un tir et il y a un défenseur. On est par moments dans des situations un peu euphoriques, où il y a quelque chose d'euphorique comme ça, d'urgence, et on va créer un tir, et parfois, souvent, il rentre ce tir, il rentre dans le panier, et il y a les gens, c'est un côté, vous l'avez tous vu, au foot, un truc, on se dit, mais c'est inimaginable, quoi, comment il a fait, quoi. Et je crois qu'effectivement, il y a cette notion d'excès d'intensité, et je ne sais pas si on ne fait pas appel au cerveau aussi, parce que le cerveau, en peu de temps, il va réagir. Et il va trouver en fait un geste, il va créer un geste qui n'existe pas. En fait. Et puis bah, la notion de lâcher prise, pour revenir avec madame, les enfants l'ont beaucoup. Par exemple, je pense que on se censure beaucoup pour avoir fait un peu de théâtre. Je pense que tout le monde peut être comédien en fait. Et je me demande si, encore une fois, s'il ne faut pas passer par des excès, peut-être de joie aussi. Parce qu'on peut créer aussi en rigolant beaucoup, etc. Mmh. Voilà. Donc, je ferai plus un lien avec l'excès.
Mmh. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur une thématique qui est un petit peu... qui est un petit peu autour de ce qu'on a fêté, qui est le thème de la sensibilité, qui est-ce que justement la créativité ne serait pas justement une façon de mettre notre sensibilité, de frotter notre sensibilité face à nous-mêmes, face aux autres, que ça peut être le regard des autres, face à un objectif que l'on peut avoir, et qui justement, ce que l'on peut appeler souffrance, c'est peut-être aussi cette volonté de dépasser, de combat justement de cette propre sensibilité par rapport au monde, par rapport à tout ce que l'on approche, et que justement ce n'est pas forcément la souffrance en elle-même qui est porteuse, mais c'est plus cette espèce de sens du combat qui peut porter la personne qui souhaite créer.
Mmh. Ouais. La souffrance, non pas qu'on le ressent simplement, mais ce que l'on fait, hein, ou ce que l'on en fait de la souffrance. Oui.
Alors, moi, ce que je vous écoute tous, là, enfin, pour moi, je pense que la créativité, elle peut effectivement être provenir d'une souffrance, effectivement, parce qu'on a les sentiments qui sont les très 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 sensibles. Mais je pense que la créativité peut être aussi, ça peut être quelque chose qui vient d'une joie de faire quelque chose. On parlait de quelqu'un qui bâtirait une maison. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit en pleine déprime et qui va faire pourtant il peut faire un chef-d'œuvre, mais il ne sera pas dans une souffrance intellectuelle. Je pense que en fait, la créativité, elle n'est pas toujours associée à une souffrance. Je pense que ça peut être aussi associé à une joie que l'on a de créer. Et voilà. Et c'est vrai que parfois, quand on est mélancolique, on peut écrire des fois des textes, des petits poèmes comme ça, et se relire des fois quelques années après où ça va beaucoup mieux, et on lit ça et on se dit j'allais vraiment mal à ce moment-là, mais j'ai fait quelque chose de beau, mais qui me correspond plus maintenant. Mais c'est vrai que je pense que en état de souffrance, enfin en tout cas d'émotion, on peut effectivement avoir des. Alors là, je parle surtout. Finalement, des artistes, effectivement, des poètes, des musiciens, plutôt ce genre de personnes. Mais après, je pense que la création, elle peut être aussi, la créativité, elle peut être aussi, elle peut venir aussi de gens qui sont en joie. Et ça, on n'associe pas toujours la créativité à la souffrance.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que dans la créativité, il y a peut-être quelque chose, effectivement, d'une introduction du nouveau dans le monde. Mais du coup, qu'est-ce qui cause cette créativité? Est-ce que c'est la souffrance, la joie ou autre? Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on crée, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit un tir de basket, où on se surprend soi-même, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se surprend soi-même. Tout d'un coup, waouh, c'est moi qui l'ai fait, ça. Et la question, c'est peut-être justement, mais est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui ai véritablement fait ça?
Voilà. Est-ce que c'est moi qui suis véritablement à l'origine de ce poème magnifique que j'ai écrit, certes, dans cette situation-là, dans ce contexte-là, c'est bien moi qui l'ai écrit, mais est-ce que j'en suis véritablement l'auteur au sens propre du terme ? Et dans l'idée de création, il y a quand même l'idée d'inspiration. C'est-à-dire, et l'inspiration, elle peut venir pour une théorie scientifique, elle peut venir pour un tir de basket, tout d'un coup, hop, l'inspiration, c'est le bon geste au bon moment, c'est le geste qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Voilà, ça peut venir d'un moment de joie extraordinaire où tout d'un coup, je vais avoir, je ne sais pas moi, une symphonie, la neuvième de Beethoven qui hop, surgit, voilà. Et donc, dans l'idée d'inspiration, il y a quand même l'idée qu'au travers de moi, il y a quelque chose d'autre que moi qui parle, comme si tout d'un coup j'étais connectée à autre chose. Et ça peut se faire dans n'importe quel type d'excès, dans les joies les plus grandes, mais peut-être aussi dans les souffrances les plus grandes. À partir de là, c'est peut-être pas la souffrance en tant que telle qui est source de créativité. C'est que ce moment de vie-là, tout d'un coup, devient inspirant. Voilà. Donc là, effectivement, ça généralise à l'idée de création pure, introduction du nouveau dans le monde. Impressionnant quand même qu'on soit capable de créer du nouveau, radicalement nouveau, même si on apprend. Hein. Oui.
Encore moi. Non.
Le micro est pardonné, je sais pas.
Vas-y.
Oui, bon, j'avais une réflexion qui pourra faire écho à personne, je pense. Il y a quelques années, il y a eu une exposition à la BNF à Paris, Bibliothèque nationale de France, sur les manuscrits de l'extrême. C'était des personnes qui avaient écrit en camp de concentration, parce qu'ils étaient soldats, ou alors qu'ils étaient malades ou fous, donc vraiment des choses très 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 importantes. Et du coup, ça me posait la question du qu'est-ce qu'on se représente comme œuvre d'art et comme chef-d'œuvre, et par rapport à ce que disait Bruno d'œuvres incroyables qui l'ont touché, comme par exemple certains poèmes de Baudelaire ou des choses comme ça. Est-ce que il n'y aurait pas justement face à ces manuscrits de l'extrême, comme je donnais comme exemple, où on est touché par cette espèce de comment dire, quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un qui est face à quelque chose qui serait lié à la maladie, à la mort, enfin, en fait, qui nous ramène à une forme d'universel de l'humanité, que ben on va tous mourir ou que on est face à une souffrance, et que justement c'est plus en termes de réception que on est plus touché peut-être par ces œuvres-là qui justement, peut-être en termes d'inspiration, quoi, mais qui nous ramène à quelque chose d'un peu plus transcendant de l'histoire du monde. Alors peut-être que la joie, enfin, je pose des hypothèses, je ne sais pas, peut-être que la joie serait plus intime dans certaines choses, alors qu'il y a une souffrance fondamentale de la mort qui nous ramène tous au fait qu'on va tous mourir,
à notre même condition. Ouais.
mais du coup, voilà, il y aurait peut-être que les œuvres qui seraient issues de la souffrance ou de ces œuvres-là extrêmes nous toucherait plus ou de manière plus collective que d'autres œuvres. Enfin, voilà.
Alors, peut-être que pour revenir sur le, enfin sur la, par exemple, la littérature concentrationnaire ou les dessins concentrationnaires ou choses comme ça. C'est-à-dire, effectivement, à partir du moment où un individu est confronté à l'innommable, à l'indicible, enfin à l'horreur, enfin à l'infâme, aurait dit Voltaire. À un moment donné, il y a peut-être ce besoin de produire quelque chose. Est-ce que ce que je produis devient nécessairement œuvre ? C'est là où ça devient intéressant, c'est pas sûr. C'est-à-dire, effectivement, il y a bien production de dessin, il y a bien production de, voilà, même de musique, ou, voilà. Mais le regard souvent qu'on a sur ces œuvres-là, c'est le fait que ces œuvres font témoignage. Sur la folie, c'est flagrant. C'est-à-dire, par exemple, les dessins d'Artaud, au moment où il est en pleine crise schizophrène, ça permet de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un schizophrène. C'est pas que ses dessins s'élèvent à un Picasso, mais c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose là qui devient un outil qui nous permet de,
de saisir ce qu'il en est d'un état mental, d'avoir des preuves de ce qu'il en a été dans des camps de concentration. Enfin, voilà. Voilà, je pense aussi à l'art brut. Hein. Ça, l'œuvre, est-ce qu'elle est là en tant qu'œuvre d'art et chef-d'œuvre, ou est-ce que l'œuvre, elle est là pour attester, pour nous apprendre quelque chose d'un fait. Je pense qu'il y a une distinction à faire pour le coup. Voilà.
Je vais continuer alors dans le même sens. J'étais très intéressé par notre amie basketteuse. Si, parce que c'est vrai que l'adrénaline décuple certaines de nos facultés. Enfin, je suis pas les spécialistes en neurosciences sauraient l'expliquer très bien. Il y a des situations d'urgence effectivement qui nous permettent de nous transcender, d'aller beaucoup plus loin de ce que on serait capable de faire en temps normal. Et puis, petite parenthèse aussi, parce que l'art, en fait, on tourne beaucoup autour de la définition de l'art. Il y a des civilisations ou des époques où l'art, c'est d'abord une technique, une maîtrise. Car rien d'explosif ou de folie, au contraire. C'est, on est dans le, que ce soit l'art musulman, ou enfin, les calligraphies arabes ou chinoises, qui sont des pures œuvres de maîtrise. Donc ça, c'est une autre... et c'est quand même créatif, il me semble. Et puis, donc c'est cette question-là. Et puis la question de la souffrance aussi, c'est exprimer l'indicible, n'est-ce pas ? C'est finalement un très bon sujet. parce que c'est vrai que, on parlait d'Artaud, mais il y a plein de schizophrènes ou de bipolaires ou de gens simplement malheureux qui ne sont pas des artistes et qui ne produisent pas, qui en sont même incapables, qui sont tellement innocents. Donc ce n'est pas forcément la souffrance qui génère l'art. Mais je crois que justement, par rapport à la perception, ce qui était évoqué, c'est que quand l'artiste exprime l'indicible, hein, exprime sa souffrance, en fait, c'est ça qui nous interpelle, nous, chacun de nous, spectateurs ou auditeurs ou lecteurs, au fond de nous-mêmes. Et en fait, qu'est-ce qui fait l'art ? Est-ce que c'est l'artiste ou est-ce que c'est le spectateur ou l'auditeur ou, voilà. Et donc, en fait, je pense que si les œuvres écrites ou composées ou dessinées par des gens malheureux, nous touche autant, c'est parce que nous sommes les spectateurs de ça, parce que ça nous parle à nous, c'est pas parce que leur malheur les a rendus géniaux, c'est parce que leur malheur nous parle. Vous disiez aussi à l'instant.
Ouais, et ça je trouve que c'est très très juste, c'est-à-dire on a commencé par le romantisme, et c'est pas rien, c'est quand même le 19e siècle. Et effectivement, il y a tout un ensemble de sociétés qui se sont jamais intéressées au problème d'une expression de la souffrance via l'art. Voilà, l'art il est mimétique, l'art il est rationnel, l'art, voilà, l'art n'a pas pour vocation d'exprimer le sentiment. Ouais. Alors, du coup, pourquoi tout d'un coup l'art va être lié à la souffrance, on va lier créativité et souffrance, on va lier art et folie. Pourquoi tout d'un coup, nous, spectateurs, ça nous intéresse ? C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et la réponse, elle est peut-être à chercher dans les dangers de l'individualisme. Hein ? Les dangers de l'individualisme. C'est-à-dire, très sincèrement, pour un Grec, est-ce que la souffrance a de l'intérêt ? Non, la souffrance, elle n'en a pas. Voilà, c'est pas ça qui a de l'intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est le travail de la raison. Ce sont les mathématiques, c'est la compréhension du monde, c'est la saisie de la vérité, c'est le concept, c'est l'universel, c'est le nécessaire. Pourquoi tout d'un coup cet intérêt à la souffrance ? Parce que on oublie peut-être de le dire, mais tout le monde souffre. L'enfant souffre, nous souffrons tous, souffrance physique, souffrance, enfin j'ai mal aux dents, souffrance de cœur. Voilà, j'ai perdu les êtres que j'aimais, souffrance mentale, psychique, enfin, je veux dire, la souffrance, elle est commune à notre humanité. Donc, effectivement, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, elle va devenir intéressante dans le processus de création ? Mais c'est peut-être justement parce que dire sa souffrance, montrer sa souffrance ou l'exprimer, c'est aussi reconnaître que l'on peut avoir un intérêt à soi. Et tenter de saisir ce qui se passe en soi. comprendre effectivement ce que je vis au moment où je le vis, et peut-être aussi le partager pour me rendre compte que quand je souffre, j'ai toujours le sentiment que je suis un être singulier et qu'il n'y a que moi qui souffre, et qu'il n'y a que moi qui souffre ainsi. Et in fine, justement, le partage nous permet de comprendre que voilà, la souffrance, elle est commune. La souffrance, elle se vit de la même manière de la part des autres, même si mon expérience est singulière. Vivre le deuil ou une rupture sentimentale, ben, c'est vivre un deuil ou une rupture sentimentale. Voilà, il y a des processus, il y a des choses qui se font, que la capacité qu'ont certains individus de pouvoir exprimer cette souffrance nous permet du coup de mieux saisir, de mieux comprendre et du coup de mieux intégrer. Et c'est peut-être ce qu'il y a de fascinant dans quelqu'un, par exemple, chez quelqu'un comme Van Gogh, c'est-à-dire c'est une vision du monde, c'est une sensibilité effectivement, mais qui résonne en nous parce que ça nous apprend à voir, ça nous apprend à sentir, ça donne tout d'un coup une structure à notre propre sensibilité. Et c'est ça qui fait le chef-d'œuvre, à la différence de l'œuvre de témoignage, par exemple.
Cela évoque pour moi une volonté consciente ou inconsciente de sortir du cadre, que la causalité soit la souffrance ou pas. Je pense que derrière, on retrouve la même mécanique. Sortir du cadre, sortir des contraintes du quotidien, de la vie, du déterminisme, d'un tas de choses qui sont réglementées, régies, etc. On le voit sur un tas de sujets, que ce soit le langage, on en a parlé tout à l'heure avec les enfants, et ça c'est intéressant, avec le temps aussi, où on est extrêmement régi par le circuit de la Terre qui tourne autour, les heures, les journées, les heures, les minutes, et c'est vrai que toute notre vie est réglementée comme ça. Je suis à peu près sûr que votre dernier shoot de basket était complètement intemporel quand vous l'avez lancé. Vous étiez hors du temps, et je pense que l'artiste, le sculpteur, il crée une œuvre, le peintre crée une œuvre qui est totalement intemporelle, et c'est une façon d'exprimer ce hors du temps. Le musicien fait quand même quelque chose d'extraordinaire sur des œuvres qu'on peut écouter aujourd'hui, ou quand on l'écoute, eh bien, aucun d'entre nous n'est capable de dire si ce qu'il écoute est au présent, est au passé ou au futur, puisque l'œuvre qui va durer 3, 4, 5 minutes, on l'a déjà dans l'oreille, il y a des sons qui passent, mais ils sont encore dans l'oreille. En fait, on ne fait même plus de différence entre le passé, le présent et le futur, surtout pour des œuvres qu'on connaît. Donc c'est peut-être aussi une façon d'exprimer une volonté de sortir d'un cadre qui, alors, je pense que ça s'applique bien à la souffrance, mais pas que. C'est de la créativité. On a la même chose pour le langage. Le langage, si nos ancêtres n'avaient pas dit que là-bas, c'était un arbre, on aurait du mal ce soir à échanger. On aurait beaucoup de mal. Et quelque part, c'est une contrainte que les enfants, surtout jeunes, n'ont pas. Ils s'expriment beaucoup plus librement parce qu'ils n'ont pas cette inhibition qu'on peut avoir sur le langage. Et c'est une autre façon chez les créatifs du langage, les poètes, qui évidemment manipulent ou vont utiliser, harmoniser, encenser des mots qui n'avaient pas le même sens pour nous. Donc voilà, je pense que je voulais revenir sur cette idée de sortir du cadre. En fait.
Oui, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que ça ne vient pas forcément de nous, cette création. Je reviens, mais très rapidement, sur l'exemple que j'avais cité par rapport à la maladie de maman les premiers jours. Le matin tôt, je me mets sous notre soleil dans le jardin pour faire une liste des courses que je dois faire. Et puis à un moment, pendant que j'ai le stylo et la feuille, il y a un petit oiseau mignon qui arrive sur le cerisier, le silence total, et puis chante. J'écoute. Et puis mon stylo va tout à fait dans un autre sens. Et j'écris mon premier quatrain qui venait de cet oiseau. Et quand je l'ai relu plus tard,
je me disais, mais c'est pas possible, ça vient pas de moi. Mmh. Et ça m'a fait penser aussi à un discours d'un grand philosophe, toute proportion gardée, Krishnamurti, qu'on avait fait venir lors de la crise de 1929, en Europe, où il y avait la crise, qui n'a rien à voir avec le secte de Krishna, bien sûr, et que lors de l'une de ces conférences, il se prépare, le public est là, et puis avant même qu'il commence, il y a un petit oiseau qui arrive, qui se met sur la table, devant lui, le silence total, il commence à chanter, il laisse chanter. Et quand il a terminé, il s'envole, et puis après il s'adresse au public en disant, mais ça y est, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il avait laissé cet oiseau. Et puis un deuxième point, c'est qu'il y a une autre dimension qu'il ne faut pas non plus oublier, ça m'arrive même maintenant, souvent dans les rêves. L'un des poèmes que j'avais composé, c'était encore pendant cette période, le matin très tôt, dans mon rêve. Et j'ai fait un rêve magnifique que je n'avais jamais fait auparavant. Et l'interprétation des rêves dans notre culture d'origine a beaucoup d'importance. Parfois un peu trop, mais il faut le faire avec modération. Hein. Voilà. Donc c'est important, à tel point que maintenant, la nuit, quand je me couche, je mets toujours un stylo et un papier à côté. Parce que si je n'écris pas mes quatrains, le matin, je ne me rappelle plus. Et pour terminer la fin de la fin, c'est que ma maman, qui n'a pas eu la chance d'être très instruite, mais qui avait une culture orale très importante et profonde, qui nous a transmis, elle était capable, je vous avais dit tout à l'heure que la langue persane, c'est une langue avant tout poétique, bien avant que ça soit politica, et qu'elle était capable de composer des quatrains, mais avec ses mots, son langage et puis ses expressions. Et je crois qu'il m'avait... C'est la première fois, après sa maladie, où maintenant, j'arrête pas d'écrire des quatrains. Je sais pas, j'ai fait peut-être des centaines et des centaines. Ça reste à prier et puis à revoir. Et voilà. Voilà aussi la créativité, dans ce sens. Les rêves qui peuvent aussi nous conduire vers la création. Pas seulement l'état d'éveil, je crois. Voilà, merci. Je ne fais pas trop long.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'art brut, et donc ça m'a fait penser au manège du Petit Pierre. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un monsieur qui était commis agricole dans une ferme à Payologe, il y a de cela quelques années. Et donc, c'est un monsieur qui était dans une situation de handicap, il avait un handicap sensoriel, qui a un visage très ingrat, enfin bon. Et donc, voilà, il travaillait dans la ferme, et puis, petit à petit, il a voulu s'intéresser à des choses qui se trouvaient là dans la ferme. Et puis, il a monté un manège. Et ce manège, enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais... si je parle de ce monsieur, c'est qu'en fait, je pense que ce n'est pas un monsieur qui souffrait, c'est pas un monsieur qui a créé pour faire voir, et pourtant, il y a plein d'enfants des communes voisines, lors de la sortie dominicale, venez le voir, il était très souriant, très attachant, voilà. Et donc son manège est exposé à la Fabuleuse Ré, c'est un musée en fait d'art, ce sont des choses, des œuvres qui ont été réalisées par des gens qui n'ont pas de culture artistique, et donc le manège a été reconstitué là-bas.
Voilà. Mmh. C'est bien ? Oui. Moi je pense qu'il y a aussi une dimension qui est un peu mécanique aussi par rapport au corps, comme la mémoire musculaire, quoi, on pourrait appeler ça comme ça. Par exemple, pourquoi dans la situation de stress, on arrive à faire le shoot de basket ? C'est peut-être aussi parce qu'on l'a fait, on s'est entraîné à le faire 1000 fois avant, quoi. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment ça. Et en fait, en pratiquant, on va développer des habitudes. Et je pense que c'est peut-être inconscient parfois, mais la créativité, en fait, c'est réutiliser nos habitudes. Et en gros, notre corps fait peut-être un peu au hasard ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Par exemple, quand on fait du blues, une improvisation de blues, souvent on va faire... qu'on a déjà joué avant, quoi. Et, par exemple, on va devoir faire des nouvelles choses pour pouvoir et s'habituer à faire des nouvelles choses pour pouvoir pouvoir un peu mixer tout ça, quoi, et faire et vraiment improviser quelque chose de nouveau, quoi.
Voilà. Oui, moi je voulais juste dire que la création, certes, beaucoup d'artistes ont créé dans la souffrance, c'est vrai, parce que aussi souvent avec des tempéraments un peu mélancoliques, etc., on pense aux poètes. Mais beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes ont créé toujours, encore à ce jour dans le bien-être, dans la joie. Certes, on a un peu peut-être l'impression qu'ils sont en dehors du temps, peut-être un peu à côté de nous, peut-être un peu en marge, mais dans leur monde, dans leur bulle, parce qu'ils réfléchissent, mais justement sans souffrance, c'est-à-dire en ayant choisi leur thème de création, en ayant pensé peut-être, je pense aux peintres, aux couleurs, aux motifs, et tout ça sans aucune souffrance, parce que bien pensé dès le départ. Ce qui fait que, bon, pour moi, c'est la création, c'est pas forcément quelque chose qui viendrait comme ça parce qu'on souffre. Voilà, bien au contraire, parce qu'on est dans le bien-être et dans la joie. Voilà.
Ça va faire le lien, je crois. Au départ, je me disais que pour moi, la créativité, ça vient plutôt de l'enthousiasme et de la joie. Et en fait, je vois qu'au-delà de ça, au-delà de l'enthousiasme et de la joie, je crois que la créativité, elle vient de la vie en nous, dans le sens cette énergie de vie qui est en nous et qui nous transcende. Et je crois que c'est pour ça que les enfants sont si créatifs, c'est qu'eux, ils sont reliés encore à cette énergie de vie qu'il y a en eux. Et qu'on considère la créativité comme une expression ou comme une transformation ou comme le fait de créer quelque chose de nouveau, d'innovant. J'ai l'impression que c'est toujours cet élan de vie en nous qui est en train de s'exprimer. Et du coup, je crois que la souffrance, c'est, elle se crée, elle arrive quand on est dans un état où on n'accepte pas la douleur. Or, la douleur, ça fait partie de la vie. Donc, la souffrance, en tant que négation de la douleur, ce serait nier la vie. Et du coup, nier la vie, eh ben, c'est quand même maintenir un lien avec elle. Donc, je crois en fait que la créativité, c'est notre lien avec la vie, que ce soit par une acceptation enthousiaste et joyeuse de l'élan de vie en nous, ou que ce soit par... La souffrance qui nie la vie en nous.
D'accord. Alors,
pour ma part, il me semble évident que la créativité peut exister sans souffrance. On en a cité des exemples comme un enfant heureux, à moins qu'on ignore son malheur, mais un enfant heureux qui va être créatif, quelqu'un qui construit sa maison en vibrant pour ça. Mais par contre, la souffrance elle-même peut aussi être source de créativité. Alors, par quel procédé? Peut-être parce que quand il y a souffrance, on va se poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? On va avoir une prise de conscience, où tout le monde essaye de ce qui se passe, et après, par là, on va essayer d'enclencher une solution. On est déjà dans un début de créativité, en disant, qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ma souffrance, finalement? Et ce qu'est-ce que je peux faire, il peut peut-être s'exprimer de deux manières. En première intention, peut-être dans certains cas, on peut trouver la solution. Voilà. Et dans d'autres cas, bien par la voie de peut-être de l'art, du sport, d'autres choses qui vont nous aider à faire passer cette souffrance, ou à l'oublier, ou enfin, au tout du moins avoir un résultat qui nous soulage. Et une autre chose aussi, je crois que la souffrance, elle peut peut-être être aussi source, justement, alors peut-être on peut appeler ça de non-créativité, mais on voit des malades, je suis dans le milieu médical, qui baissent les bras parfois. On a ce que je viens de dire avant, on cherche la solution. et puis d'autres qui baissent les bras. Alors peut-être parce que peut-être la douleur est trop forte, comme elle dit, peut-être parce qu'on n'a plus, c'est la fuite. À un moment donné, on n'en trouve plus de solution ou on ne l'aperçoit plus à travers les médecins. Donc la souffrance, dans certains cas, va amener, on le voit, à baisser les bras, à dire « moi, je veux finir, je ne veux plus, je veux arrêter médicalement, comme ça », ou peut-être par le suicide, avant que le suicide soit une forme de création. Mais voilà, donc en fait, moi, j'y vois plusieurs aspects. La créativité sans notion de souffrance, la créativité née de la souffrance, et puis la souffrance qui peut faire créer d'une non-créativité, du coup, ça marche pas, non-créativité, enfin, baisser les bras.
Alors, peut-être une dernière intervention, et puis on conclura.
Juste pour rejoindre la femme qui est intervenue juste avant. Madame, pardon.
C'est pas grave.
Pour rejoindre. Effectivement, donc, le sens que je trouve vraiment à la vie, c'est que c'est vraiment à la recherche de l'enfant qu'on était, qu'on a toujours, le préserver jusqu'au bout. Donc effectivement, la douleur fait partie de la vie. Elle est à vivre pleinement. Une fois qu'on l'a passée, effectivement, il y a des trésors qui se retrouvent après. Des bonnes surprises en général. J'ai fait de la musique qui on m'a lancé. Enfin, mes parents m'ont proposé, m'ont laissé le choix. Mais j'étais quand même très jeune, j'avais 6-7 ans, à pratiquer un art, enfin à pratiquer la musique. Et j'en suis pleinement heureux de m'en être échappé et d'avoir arrêté tout cela. Et d'avoir. J'ai fait aussi du sport, un an de baseball, un an de tennis par-ci par-là. Je n'ai jamais. Était jusqu'au bout, j'en suis pleinement heureux d'avoir arrêté aussi. Et je suis heureux d'être dans l'instant présent avec vous. Voilà.
Et doublement merci parce que je trouve que c'est une transition magnifique vers ma conclusion en fait. Donc merci. J'ai vraiment été habitée tout au long de cette soirée par deux auteurs. Voilà. Le premier, c'est Baudelaire, qui, dans une préface au Spleen, qu'il a en fait jamais publié, avait écrit un de ses derniers vers, c'est celui-ci, parlant de Paris. J'aimerais que tu me donnes ta boue pour que je puisse en faire de l'or. Et je trouve que dans le processus de la créativité, on y est en plein, quoi. Donc la boue, on voit tout ce que ça implique dans le rapport à la souffrance. Et il va en faire de l'or, il en fait de l'or. Alors, mais le second, vraiment le second auteur qui m'a accompagnée, vraiment, c'est Rimbaud. Pourquoi Rimbaud ? Parce que quand on pose, il me semble, la question souffrance et créativité, il y a les poètes maudits. Et le poète maudit, Rimbaud. Et Rimbaud, qu'est-ce qu'il nous dit aussi dans sa préface aux Illuminations ? Il nous dit qu'il veut aller mais jusqu'au fond de ce qu'il y a de plus abject pour justement pouvoir y trouver la vérité. Et il écrit « Et cette vérité l'asseoir sur mes genoux ». Et ce qu'il dit ensuite, c'est « Et cette vérité, je l'ai vue, je ne l'ai pas supportée, je l'ai rejetée. » Voilà. Et que va faire Rimbaud ? Il va arrêter. Il va arrêter d'écrire. Voilà. La souffrance générée, cette souffrance qu'on peut appeler narcissique ou ce que l'on veut, ce poète, véritablement, on dit qu'il y a du génie, il part en Abyssinie, on va le chercher, il est publié, on lui dit, ça y est, vous êtes reconnu. Voilà. Vous êtes le poète vraiment de ce siècle. Il dit, mais arrêtez avec tout ça, quoi. Ne me parlez plus. C'est un moment dépassé, vous ne savez pas ce que vous dites quand vous dites qu'il y a du génie là-dedans. Et donc, il y a quand même quelque chose qui interpelle fortement. Aller cultiver sa souffrance, c'est pareil, Maupassant disait qu'il cultivait sa petite hystérie. Aller cultiver sa souffrance, sa mélancolie pour en faire le moteur de la créativité.
Ben effectivement, si on pense les choses comme ça, Rimbaud nous apprend peut-être que ça marche pas. Voilà. La souffrance, peut-être pas plus que le bonheur ou n'importe quelle émotion, est peut-être cause de créativité. La créativité, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, c'est tout d'un coup de produire quelque chose qui est radicalement nouveau. Radicalement, ça veut dire qu'il n'existait pas au préalable. Mais en même temps, là où il y a création, ce n'est pas simplement une simple inspiration. Il y a du travail. À l'origine, il y a un apprentissage. On apprend à faire la musique. On ne devient pas Beethoven à partir de rien. On apprend à écrire des poèmes. On ne devient pas Rimbaud à partir de rien. Paul Valéry disait, mais il n'y a pas de génie sans un travail. À partir du moment où vous portez une capacité à créer, vous vous devez de travailler plus que les autres, disait Paul Valéry. Voilà, c'est un travail constant d'acquisition des méthodes, d'acquisition des connaissances, pour pouvoir après laisser place à ce quelque chose qui va permettre effectivement de produire une œuvre qui n'existait pas auparavant et qui va être reconnue comme telle. Dans sa singularité, dans son génie, dans sa beauté auridicante, le génie est ce qui donne ses règles à l'art. Enfin, il y a quelque chose qui apparaît qui n'était pas là au préalable. Alors, du coup, la création, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être le travail, cet apprentissage qui ne fait pas de nous tous des artistes. C'est pourquoi on est fasciné par les enfants, mais en même temps, les enfants, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit c'est très bien d'avoir une imagination créatrice, mais maintenant il faut travailler, il faut donner des règles, on apprend, voilà, on apprend à dessiner, on apprend la musique, on apprend à faire ses gammes, voilà. De telle sorte peut-être que la rationalité ou la maîtrise puisse apprendre à se détacher de ses émotions, puis apprendre à se détacher de ses ressentis de façon plus générale, le bonheur, ok, la tristesse, la souffrance et autres, afin de pouvoir les regarder et à partir de là, de pouvoir leur donner forme. C'est-à-dire, effectivement, la création, en fait, elle se fait à partir du moment où il y a une mise à distance, toujours, une mise à distance. Van Gogh, il peint. Il peint peut-être sous l'inspiration, mais malgré tout, il y a une mise à distance. Il y a une pensée de son œuvre, il y a une pensée de ses peintures. Il ne peint pas que sous la souffrance. Quand il peint les champs de blé qui sont caressés par le vent, on sent toute la sensualité, toute la douceur, la chaleur de ce soleil du midi, cette beauté de la luminosité. Mais c'est possible qu'à partir du moment où effectivement l'artiste est celui qui est capable d'avoir un pas en arrière et en même temps c'est un pas de côté. C'est pourquoi dans la création effectivement il y a toujours de la marginalité de l'individu, marginalité de ce qui est créé. Marginalité, ça veut simplement dire en marge, et c'est peut-être ça la créativité, c'est-à-dire on est capable de créer quand effectivement tout d'un coup il y a quelque chose qui est en marge, le pas de côté, à côté de la norme et qui nous relie à la vie. Parce que si l'humanité est vivante, c'est bien parce qu'elle ne stagne pas. C'est bien parce qu'elle est capable constamment de créer du nouveau, d'avoir cette énergie créatrice qui relance constamment et nos individualités, j'ai envie de dire, et nos sociétés, nos collectivités. Que serait une société où il n'y aurait plus de créativité ? Maintenant, une société où la souffrance serait de plus en plus abolie, pourquoi pas, après tout ? Pourquoi pas ? Mais je, là encore, je crois que ça sera au regard de ceux qui créent, de prendre cette distance vis-à-vis de notre propre manière de vivre nos souffrances ou de les concevoir, pour pouvoir mieux nous les faire voir. Voilà.